Hello and welcome to La Crème Anglaise, le podcast pour vous faire découvrir ou redécouvrir la cuisine britannique et son histoire. Dans chaque épisode, j'accueille un invité pour parler de leur plat préféré, mais aussi leur lien avec la cuisine de chez moi. Je suis Sarah Lesage et ravie de vous avoir avec moi. Dans cet épisode, j'accueille Pauline, qui habite à Manosque et qui est naturopathe. Avec un mari anglais, elle a vécu plusieurs années en Grande-Bretagne. Et oui, on peut manger sainement là-bas. Au menu aujourd'hui, un gâteau anglo-américain-australien avec une version healthy de Pauline, mais qu'on peut adapter avec ce qu'on a à la maison. Si vous aimez le chocolat, vous allez adorer le tiffin. So, pinky up and let's get started. Bonjour Pauline et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour participer à la crème anglaise.
Avec plaisir, Sarah, merci.
Et alors Pauline, tu vis à Manosque dans le sud de la France avec ton mari anglais et tes fils Owen et Félix. Mais tu as aussi vécu quelques années à Bristol. Comment tu es arrivée en Grande-Bretagne?
Mon mari que j'ai rencontré en France devait repartir pour travailler. Et on s'est mariés en France et il m'a ramenée en Angleterre avec lui. Mais j'étais très contente parce que j'ai toujours eu un attrait pour le Royaume-Uni, les pays anglophones, parce que mes parents se sont rencontrés à Londres. Et mon père m'a beaucoup transmis sa passion pour la fin des années 60, début 70, la musique, etc. Donc, ça m'a toujours attirée. Mes parents voulaient qu'on parle anglais, donc j'ai pris des cours particuliers avant de rentrer au collège. Et puis j'aimais ça. Et après, j'ai fait une année d'Erasmus en Irlande. J'ai découvert la bière, etc. Et j'ai toujours voulu me marier avec un Anglais.
Ah,
ça c'était mon rêve.
Ton rêve s'est réalisé.
Donc quand je trouve que c'était le destin qu'on se rencontre, parce que comme on est de la même année, Neil a fait une année à l'université de Preston et je devais faire mon Erasmus là-bas. Donc on se serait rencontrés à l'université là-bas, mais finalement je suis partie en Irlande, donc voilà. Mais on s'est quand même rencontrés quelques années plus tard à Marseille.
C'est incroyable.
Et une autre chose, il y a quelques années, j'ai fait un test ADN. Pour m'amuser, hein, c'était un cadeau d'Aniv. Et en fait, j'ai 50% d'origine française et 50% d'origine île-britannique. Et du coup, je me demande si c'est pas un truc, c'est génétique, tu vois. Je veux me marier avec un Anglais parce qu'en fait, c'est dans mes gènes. Je sais pas.
C'est ça, et le destin, visiblement.
Ouais.
Et c'est vrai, pour avoir aussi parlé avec toi en anglais et lu ce que tu écris en anglais, tu es fluent, enfin vraiment, tu parles très très bien anglais. Ça, tu as appris en Irlande, tu dirais, pendant ton échange, parce que moi, je fais toujours la promotion des échanges pour les jeunes. Je trouve que
ouais, c'est génial.
C'est l'immersion totale qui est le meilleur moyen d'apprendre.
Ouais, c'est génial. Oui, je pense déjà l'université, ensuite l'Erasmus en Irlande, et puis j'ai habité dans différents pays, donc je parlais anglais, et puis j'ai travaillé à Jersey, donc là j'ai eu beaucoup d'amis anglophones, et puis ensuite j'ai rencontré Neil, il parlait pas très bien français quand on s'est rencontrés, donc on parlait en anglais. Puis après, il fallait que je l'aide avec son français, donc on a plus parlé en français. Mais je lis beaucoup. Tous les livres que je les lis en anglais.
Mm.
On regarde de la télé, les films qu'en anglais. Donc
ouais.
J'aime ça.
Mais je pense que ça aide quand t'as des parents, la famille qui qui t'apporte cet amour d'un certain pays. Tu baignes déjà un petit peu dans cette culture. Alors, tu es naturopathe et en train de continuer de te former comme diététicienne pendant que tu t'occupes de ton dernier, Owen, qui est très jeune. Alors, beaucoup de personnes associent la Grande-Bretagne avec les fish and chips, les plats gras, ce qui n'est pas faux. Hein. Il y a ça et c'est vrai qu'on a des vrais problèmes d'obésité pas loin des États-Unis, hein, en Angleterre. Mais on peut aussi, je pense, est-ce que tu peux me confirmer que c'est possible de manger sainement en Grande-Bretagne?
Oui, c'est possible, carrément. Je trouve qu'il y a beaucoup de chefs qui s'intéressent à la nutrition, surtout pour les enfants dans les écoles. Genre Jamie Oliver, il fait ça depuis très longtemps. Je sais pas si tu connais Melissa Hemsley. Mm-hmm. J'adore. J'ai tous ses livres de recettes. Enfin, c'est et y a beaucoup de légumes. Ces chefs cuisinent beaucoup à base de légumes. Ils préconisent de limiter la viande, etc. Donc, et puis, c'est vrai qu'en habitant à Bristol, alors c'est vrai que c'est une grande ville, mais on se faisait livrer des paniers de légumes qui poussaient localement toutes les semaines. Il y a beaucoup de magasins bio, il y a beaucoup de cafés bio, vegan, végétarien, et comme on a déjà dit, il y a toujours des options dans les restaurants pour les végétariens, les personnes qui mangent sans gluten. Donc c'est vrai que on peut manger sainement en Angleterre. Il y a tout ce qu'il faut.
Oui, ce qui m'a marqué, c'est les cartes. En fait, ils indiquent qu'il y a un petit V, un petit SG, enfin, non, pas SG, parce que ça serait français, GF, gluten free. En fait, tu prends une carte dans un restaurant et c'est très facile à faire
très
les
facile,
choix.
Ouais.
Et souvent, t'as plus de choix végétariens ou vegan ou sans gluten que dans un restaurant en France où
souvent
le chef il fait une grimace parce qu'il faut qu'il change un petit peu la recette. Donc ça je trouve qu'en Angleterre on est assez en avance. Mais par rapport à la cuisine en général, quelle est ta vision de la cuisine anglaise versus la cuisine française aujourd'hui?
Je trouve que la cuisine française est beaucoup plus traditionnelle en réalité que la cuisine anglaise. Les Anglais mélangent beaucoup de il y a beaucoup de restaurants asiatiques, il y a de indiens, enfin c'est très varié, alors que je trouve qu'en France on est c'est plus traditionnel et effectivement les végétariens c'est dur, ça s'arrange, mais il y a encore quelques années, tu pouvais manger que la salade de chèvre chaud si tu voulais pas manger de viande. Et souvent, quand tu dis que tu manges pas de viande ou que tu es végétarien, on te donne du poisson.
Moi, j'ai déjà eu juste les légumes, mais sans la viande ou le poisson, parce qu'ils n'avaient pas autre chose.
Une fois dans un petit resto, bon alors après c'était assez c'était dans le centre de la France, donc bon, peut-être moins au courant des tendances culinaires plus modernes, mais il y avait une assiette, un genre d'assiette composée au menu, mais il y avait du jambon, donc il y avait différentes choses, des légumes et du jambon, et j'ai demandé si on pouvait juste ne pas me mettre le jambon. Et la serveuse a complètement paniqué, c'était pas possible. Et moi, je disais, je vais juste pas le manger. Alors, laissez-le sur l'assiette et je vais juste pas le manger, on va le jeter à la poubelle. Oui, d'accord. C'était incroyable.
Alors, en même temps, je dois dire que je trouve que, donc à Paris, bon, c'est là que ça commence quand même, les influences arrivent du reste du monde. Je trouve quand même, il y a une vraie ouverture vers une cuisine plus international, moins peut-être français traditionnel, et une vraie expérimentation. Mais souvent, on découvre que les chefs, ils étaient aux États-Unis ou en Australie ou en Angleterre
pour justement apprendre d'autres influences. Donc, je trouve que ça commence vraiment à se sentir bien à Paris et forcément, ça va s'infiltrer dans le reste du pays.
Ça va s'infiltrer, ouais. Et faux.
Et faux, oui. Et alors, malgré le fait que tu vas m'emporter sur la santé, ça me fait très plaisir que tu as voulu parler d'un gâteau. Mmh. Un gâteau qu'on appelle le tiffin ou le tiffin cake en Angleterre, qui est peut-être aussi très connu comme le Rocky Road, qui est en fait le nom américain ou australien. Moi, ça me fait très plaisir parce que déjà le mot tiffin, j'adore. J'avais même un petit chien qui s'appelait tiffin parce que j'avais le grand modèle. J'avais un bouvier bernois et puis je voulais pas qu'il soit seul. Donc, j'ai pris un tout petit chien. C'était un petit mélange. Et alors, je dis, c'est comme son petit tiffin, son petit snack. Donc, voilà, j'adore le mot déjà. Alors, pourquoi tu choisis ce gâteau-là?
Alors, parce que je savais pas vraiment que Rocky Road, c'était le nom américain, mais j'aime le nom Rocky Road, parce que je pense que la première fois que j'en ai mangé, c'était justement avec Neil, mon mari, quand au début de notre relation d'amoureux, on partait en Angleterre faire des petites vacances et on est parti au Pays de Galles, Tenby, que j'adore, et j'ai mangé un Rocky Road là-bas et c'était super bon. Et puis ce nom me fait penser à justement à ces petites routes là, ces petits chemins dans les montagnes, voilà. Et aussi parce que j'adore le chocolat. je trouve que c'est un gâteau dense et j'aime bien aussi. Il est très versatile. On peut mettre ce qu'on veut dedans. C'est hyper rapide à faire. Voilà, ça peut être plein de marshmallows, etc. Comme ça peut être un bon petit snack que je peux donner à mes enfants sans culpabilité.
Et donc, si tu devrais les décrire à quelqu'un qui l'a jamais mangé, comment tu décris le tiffin?
Je dirais que c'est une sorte de rock chocolaté rempli de petites surprises. On va tomber sur un petit morceau de biscuit, un petit morceau de fruits secs et des fois un marshmallow.
Mais alors, on va venir à ta recette à toi. Et j'adore le côté surprise parce que c'est exactement ça. On ne sait pas sur quoi on va tomber, comme sur une route d'ailleurs.
Exactement.
On n'est jamais à l'abri d'une bosse ou un nid de poule. Ouais. Mais d'abord, juste un petit mot sur l'histoire du mot tiffin, qui est un mot en fait anglais sud-asiatique pour dire un petit snack ou un petit repas léger. Et dans le Raj britannique, donc qui était de 1858 à 1947, le tiffin était utilisé pour désigner le coutume britannique de prendre le thé, l'afternoon tea, dans l'après-midi. Et c'est un mot qui vient peut-être de tiffing, c'est un terme familier pour prendre un petit verre qui s'est vite transformé pour dire gourmandise ou un repas léger. Et donc, aujourd'hui, tiffin, tu vois les boîtes aussi de tiffin, les lunchbox. Ouais. Donc, ça veut dire un petit repas, un encas. Donc, ça peut être un petit déjeuner, mais ça peut être un friandise sucrée, c'est une collation salée. C'est assez large, mais en tout cas, tiffin, en plus du gâteau, et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on l'avait donné ce nom, ça veut dire un petit snack, un petit gourmandise.
Ouais. Et donc, on mange ça pendant l'afternoon tea.
Alors, le Rocky Road ou le tiffin, on peut. Ouais. Mais les tiffins, en général, c'est un mot générique. C'est pas un plat. C'est pas un plat. C'est le mot a été donné à ce gâteau. Mais en soi, c'est un mot générique pour dire, voilà, un petit snack. Un petit friandise. Et,
C'est mignon.
Ouais, je trouve aussi.
Un mot, ouais.
Et donc, effectivement, on a les versions anglaises. Alors, la version américaine et australienne, alors en Angleterre, on va mettre plutôt des petits gâteaux dedans, alors qu'aux États-Unis et en Australie, c'est plutôt les chamallows. Et puis aux États-Unis, c'est aussi souvent associé à la glace, le Rocky Road glace. On va plutôt trouver ça, le Rocky Road ice cream. Et en Australie, on va trouver beaucoup plus des fruits glacés, des framboises comme ça. Et on dit même que, alors, il y a des disputes sur l'origine, comme toujours, les Américains disent que c'est eux, les Anglais disent que c'est eux. Déjà, c'était pas avant l'industrialisation du chocolat, parce qu'avant, le chocolat était trop cher. Mais les Australiens disent que c'était un moyen pour utiliser le chocolat qui a mal voyagé, et les friandises et les petits gâteaux, tout était un peu cassé, donc ils pouvaient les mélanger. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait partie de cette habitude en Angleterre de vouloir faire avec ce qu'on a sous le main, jamais rien jeter. Donc, quand on a un petit peu de reste de gâteau, de noix, de petits fruits, voilà, on peut mélanger tout ça. Donc, moi, je trouve c'est vrai que c'est super sympa parce qu'on peut faire avec les enfants. Mmh. Ça demande pas de cuisson. Et d'ailleurs, il fait partie de ces gâteaux qu'on appelle soit les fridge cakes, donc les gâteaux qu'on va mettre au réfrigérateur, ou a tray bake.
Ouais.
Parce que c'est, tu vas nous expliquer comment faire, mais en fait, c'est comme les brownies, on fait pas individuellement, on va faire un grand plateau, plaque de cuisson, et après, on va couper en morceaux.
Ouais.
Donc, en tant que naturopathe, j'imagine que tu as une petite recette healthy.
Ouais.
Alors, justement, ta photo avec ton petit garçon, c'était trop mignon.
Ouais.
On voyait déjà, il léchait les babines, je pense qu'il avait déjà léché le bol, mais...
Il avait léché le bol, ouais.
Donc, est-ce que tu peux nous partager là, en gros, hein, ta recette saine qui nous permet de manger une sucrerie même quand on sait qu'on ne doit pas manger trop de sucre?
Donc, du chocolat fondu avec de l'huile de coco, un petit peu de sirop d'agave, mais pas beaucoup. Et après, dans un autre bol, je casse des digestive cookies, donc qui sont des sablés anglais, en petits morceaux. Le plus petit, le mieux. Et j'ai mis des pistaches concassées, des cranberries et des abricots secs. Coupés en petits morceaux. Donc, on mélange tout ça, là, les ingrédients secs. Et ensuite, on rajoute le chocolat. On mélange tout. Et on met tout dans un plat carré, rectangulaire, qui est graissé. Et 2 heures au frigo. Et après, on le ressort et on le coupe en petits morceaux de taille qui nous conviennent. Petits morceaux ou plus gros.
Alors, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on peut l'adapter parce que si tu n'as pas de sirop d'agave, c'est pas nécessaire d'aller en acheter.
Non.
On peut utiliser le maple syrup, on peut utiliser, bon, c'est moins healthy, mais on peut utiliser le golden syrup qui est anglais, mais on peut aussi utiliser un peu de miel, hein, c'est.
Oui, exactement.
C'est ce qu'on veut. Après, pareil, on peut utiliser les petits gâteaux qu'on a sous le main, les fruits secs qu'on a. C'est vraiment un super moyen de faire quelque chose de délicieux.
Ouais.
Avec ce qu'on a sous la main.
Exactement.
Mais je mettrai quand même ta recette sur le site de la crème anglaise et comme ça, tout le monde peut faire ta recette ou s'inspirer pour faire leur propre version.
Ouais.
Et ça, ton fils Félix, il a bien aimé ?
Oui, il est fan. Il s'est réveillé pensant qu'il allait en manger au petit-déj. Mais j'en donne même au petit, hein.
Ah oui.
À Owen, oui.
Donc, tu manges ça au petit-déj aussi. Donc,
il n'y
a pas d'heure.
On le mange pas au petit-déj, mais Félix, quand il sait qu'il y a un gâteau dans la cuisine, il se réveille et... Mais non, plutôt au goûter. Non, le matin, je préfère éviter quand même. Je préfère qu'il mange son petit-déj classique. Mais je vais le chercher à l'école avec son petit Tiffin.
Oh, il va être trop content.
Ouais.
Et alors, Pauline, j'imagine que même si tu parles très bien anglais, peut-être que tu as quand même une petite histoire, une anecdote à nous raconter, un petit faux pas culinaire autour de la cuisine, soit en France ou en Angleterre.
Un faux pas, je sais pas, mais il y a une anecdote qui nous fait rire avec mon mari. C'est que quand on s'est rencontrés, au tout début, c'est la première fois que j'allais passer un week-end chez lui à Marseille. Et on avait un petit creux et il me demande si j'ai déjà mangé un crisp patty. Alors là, j'ai, non, qu'est-ce que c'est? Et il commence à sortir. Ah, bah, je vais t'en faire un. Moi, je mangeais ça tout le temps quand j'étais petit. C'est un petit snack. Okay. Et il commence à sortir du pain de mie, à le barbouiller, parce qu'en plus, j'ai eu droit à la version royale, avec de la mayonnaise, des chips écrasés, et il referme, et il le coupe en triangle, et il me donne ça. Et moi, je me disais, mais on est, d'où il vient? Enfin, on n'est pas du tout du même monde. Je n'ai jamais mangé un sandwich aux chips avec de la mayo. Et en fait, c'est super bon.
C'est terrible, j'allais dire. Non. C'est très choquant sur le papier, mais en fait, c'est une drôle de truc qui est super bon.
C'est hyper bon.
Ouais. Bon, mais depuis, je pense que tu en manges un peu moins.
J'en mange pas beaucoup, ouais. Non, c'est peut-être un tous les 5 ans.
Non. Alors, Pauline, avant de se quitter, je voulais juste dire qu'on peut te trouver sur Instagram, sur ton page Soak Up the Wild, qui est joli.
Merci.
Ça veut dire, comment tu dis ça en français?
Je le dis pas. je prenais un bain de nature.
Ouais, très joli. Donc, on peut aller découvrir un peu sur toi là-dessus. Et puis, je vais mettre ta recette sur le site de la crème anglaise.
Ouais.
Donc, un grand merci pour ce moment partagé avec toi.
Ben, merci à toi, Sarah.
Et de m'avoir rappelé de ce super tiffin que j'avoue que j'avais oublié.
Ouais.
Mais je vais faire pour ce week-end parce que j'ai un gros bloc de chocolat. Je me demandais ce que j'allais en faire.
Ouais.
Donc, j'espère que ce serait aussi bien que le tien. Donc, merci beaucoup.
Ben, avec plaisir. Envoie-moi une photo.
OK. Merci d'avoir écouté La Crème Anglaise. Vous pouvez trouver la recette du tiffin sur le site du podcast La Crème Anglaise, ainsi qu'un lien vers le site et la page de Pauline, Soak Up the Wild. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de noter et de laisser un avis sur vos plateformes d'écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode. Cheerio and see you soon.